philosophie première par le père Marie-Dominique Philippe le 15 octobre 1998 à Saint-Jodard, la personne humaine.
Pourquoi chercher la vérité si on ne la possédera jamais? On possédera la vérité. On sera possédé par la vérité. C'est plus juste de dire ça. C'est le propre de l'extase. L'extase, c'est se laisser posséder par la vérité. Alors on sort de soi. Parce que le plus grand obstacle pour se laisser posséder par la vérité, c'est de se posséder soi-même. Ça se tient une montagne. Et c'est toujours à travers ce prisme de nous qu'on voit les autres. Miroir grossissant, miroir amaigrissant. Par rapport aux amis, par rapport aux soi-disant ennemis, ceux non sympathiques. Alors, dire qu'on ne possède jamais la vérité, c'est pas... On est possédé par la vérité, comme par la finalité. C'est le propre de la fin. Vous voyez, et je crois que c'est pour ça que dans une société de consommation, on a tellement de peine de rechercher la vérité, parce qu'on a une frousse intense d'être possédé. On veut posséder. De la côte, d'une société de consommation, c'est de posséder. On a une banque. Vous savez, si Dieu pouvait, il ne le fera pas, si Dieu pouvait faire ça, un tremblement de terre pour toutes les banques du monde. Tremblement de terre des Babylones. Très grosse banque du monde. Les hommes deviendraient pauvres. On a une force intense de ne plus rien avoir. Mais une force intense. Plus avoir son chez soi. La mère captative. Viens, mon chéri. On est possédé. C'est très bien d'être possédé par sa mère. Si notre mère s'est mariée. Parce qu'elle est pauvre. C'est pour ça que Jean lui est donné à la croix quand elle n'a plus rien. Dans son extase, elle est pauvre. Puisqu'elle est toute tournée vers Jésus. Et Jésus a tout donné au Père. Il est réduit à rien. Être la mère du pauvre, elle aurait pu être notre mère. Bon, alors je crois qu'il faut s'habituer à ça. Et à le comprendre métaphysiquement, c'est que découvrir la vérité, c'est découvrir que la réalité qui existe nous possède. Parce qu'on est relatif à cette réalité. C'est ça la vérité. C'est de respecter même la petite fourmi. respecte quelquefois en l'écrasant. C'est vrai, la fourmi, hein. Pas le voisin, pas le prochain. Être possédé par la vérité. Question première du Deveritate, article 1er. C'est pas traduit directement, mais j'avais demandé, je sais pas si ça a été fait, parce que faut toujours vérifier ces choses-là, qu'il y ait une traduction bonne de la première question du premier article du De Veritate. Il faudrait que chacun ait ça dans sa cellule et le relise au moins une fois par mois. Le premier vendredi du Sacré-Cœur. Excuse, hein, c'est en latin, je comprends pas. Traduisons-le. C'est une aumône magnifique. On demandera ça le jour de Sainte Thérèse à nos sœurs de traduire la première question, premier article du Deveritate. Là, vous recevrez une petite lettre d'affection. C'est de mesurer tous ceux qui sont près de lui. Seigneur, je te rends grâce de ne pas être comme mon voisin, en ce qu'il est, et tous les noms. Je ne suis pas comme ça, je ne suis pas comme ça. Merci, ça c'est parisien. C'est la prière du pharisien. Il se glorifie lui-même. De posséder la vérité. On est possédé par la vérité. Et ça, ça conduit à la croix. Alors, posséder la vérité, on est tous possédés par la vérité. En tant que chrétien, c'est Jésus, notre vérité. Et on désire être possédé par lui. En tant que philosophe, le réalisme égale être possédé par la vérité. C'est ça le réalisme. Une philosophie réaliste, c'est une philosophie qui accepte que tout ce qui existe mesure mon intelligence. Ceci est. C'est la réalité qui existe qui m'inquiète. Qui m'intéresse. Alors, oui, donc, pourquoi chercher la vérité? On cherche la vérité parce qu'on désire être possédé par la vérité. Parce qu'on sait que la vérité, en définitive, c'est Dieu. Est-ce simplement pour en vivre pleinement et constamment être dans la vérité? Non, ce n'est pas uniquement pour ça. Puisque je dis être possédé par la vérité, c'est être tout entier relatif à Dieu. À des niveaux différents. Il y a l'ami. Je veux être possédé par mon ami, en tant qu'il est mon ami, c'est-à-dire en tant qu'il éveille en moi ce qui a le meilleur en moi, le plus grand en moi. C'est ça l'ami. Quand je dis à quelqu'un que je l'aime, je veux que cette personne aille jusqu'au bout de sa grandeur, de son développement, de sa taille, jusqu'au bout. Et donc, si j'ai découvert, tant soit peu, que ce qu'il y avait de plus grand sur la terre, c'est d'être possédé par la vérité, je désire que mon ami soit possédé par la vérité. Et par là, je deviens l'ami de mon ami. C'est réciproque. On est à deux à chercher la vérité. Et tous les deux, on sait que l'ami, ce n'est pas encore ce qu'il y a d'ultime. La recherche de la vérité me conduit à Dieu. Elle me conduit à être dominé, mesuré par Dieu. Et je suis, si je suis chrétien, je sais que Dieu s'est incarné pour que Jésus soit pour moi mesure de la vérité. Alors, retenez bien ce que je vous ai dit hier entre Platon et Aristote. Y revenir tout le temps. Je crois qu'il faut, dans votre vie d'étudiant, que vous ayez lu tout Platon. C'est une lecture, il ne faut pas s'y plonger totalement, hein. Mais c'est une bonne lecture. Un dialogue. Alors, en première année, il faut demander à celui qui vous aide quels sont les dialogues qu'il faut lire. Et vous lisez un peu de Platon, c'est reposant, c'est séduisant, c'est merveilleux. C'est le roman feuilleton du philosophe. Il passe d'un dialogue à l'autre dialogue. Mais un roman philosophique. Donc, d'amis de celui qui découvre la philosophie comme une sagesse. Et il faut, dans cette lecture de Platon, découvrir Aristote. Découvrir celui qui est tout petit à côté de Platon et qui sera comme David en face de Goliath et qui verra tout de suite la fragilité de Platon, les formes idéales infuses. Et il faut revenir à Aristote de multiples manières. Alors, il serait très intéressant de voir comment, du début du christianisme jusqu'à Thomas d'Aquin, il y a une grande recherche de voir les rapports entre l'intelligence et la raison. Comprendre comment Thomas d'Aquin Et vous avez le contrat gentilès. Là, vous avez quand même une très très bonne nourriture. Saint-Thomas a voulu réfléchir sur cela. Saint-Thomas n'a jamais été purement philosophe. Il a toujours été le croyant. Et son souci, c'est se servir de la philosophie, de la recherche de la vérité, pour éclairer, expliciter, c'est plus juste de dire expliciter, là-bas, la vérité contenue dans la parole de Dieu. Donc saint Thomas, par devoir, est théologien. C'est un service qu'il rend à l'Église avec sa conviction profonde de croyant et avec son intelligence remarquable de précision, de limpidité. Comprendre que Thomas d'Aquin est avant tout et premièrement un théologien. Mais ce théologien, quand il était jeune, était philosophe. Et quand il est à la fin de sa vie, c'est un mystique. Tout ce qu'il a écrit n'est rien devant la lumière du don de sagesse. C'est très beau l'itinéraire de la vie de saint Thomas. Trois mamans. Maman de choix. Il a quitté Avicenne. C'est décisif dans la vie de Thomas d'Aquin. Il a quitté Avicenne, qui était celui qu'on donnait traditionnellement. Il a regardé Aristote. Il s'est laissé éduquer par Aristote. Il l'a commenté comme il a commenté l'écriture. D'une autre manière, c'est bien évident. Mais il a commenté Aristote. Et à la fin de sa vie, c'est le mystique qui ne pense plus qu'à Dieu. Il n'y a plus que l'amour du cœur de Jésus. Et tout ce qu'il a dit, après Thomas d'Aquin, on a le XIVe siècle, qui est un siècle très très difficile, en raison même de sa diversité, de sa très grande diversité. Et puis, progressivement, on arrive à cette revendication. Lumière. Mon cogito que je ne suis pas bête. Je cogite. J'ai une tête de plus que tous ceux qui sont proches de moi. Cogito ergo sum. Descartes est un tournant. Très, très grand. Il est né. Et c'est la réalité. passe avant la recherche de la vérité. Pour Luther, c'est très net. Pour Calvin, c'est moins net. Mais pour Luther, c'est très net. C'est la sincérité qui est capitale au point du chrétien. Et on est arrivé de cette manière à ce qu'on appelle la philosophie, la phénoménologie, le logos du phénomène, le logos du phénomène. Alors, le phénomène, il est celle d'Étienne Gilson, mais d'une certaine manière, elle la recouvre. Alors j'explique. En critique, on voit que l'intelligence humaine, au plus intime d'elle-même, forme un concept. S'appeler verbe mental. Le concept verbum. Puisque de fait, les théologiens sont toujours un peu présents dans la pensée philosophique, même si Descartes leur a dit taisez-vous. Laissez les philosophes passer devant et laissez-nous avoir une certitude en dehors de la foi. Et Descartes, de ce point de vue-là, est le philosophe qui veut se libérer du carcan des théologiens. Une espèce de révolte qui n'est pas si mauvaise. Au fond, on rappelle aujourd'hui que l'intelligence, dans sa propre recherche, est capable de sagesse. Et que considérer que seule la foi me donne la vérité, c'est du fidéisme condamné par l'Église. Mais c'est toujours les rapports entre foi et intelligence. Foi et raison. C'est quand même très intéressant, ça. Et ça va beaucoup plus loin que ce que dit Étienne Gilson. Je crois que ça devrait se prendre aussi comme ça, vous voyez. Ça, c'est à l'ordre du jour aujourd'hui. Hein? chose, vous êtes obligé de le reconnaître. Comment pouvoir lire l'encyclique du pape d'une manière intelligente? Je sais bien que cette encyclique est adressée aux évêques, c'est-à-dire à ceux qui sont responsables de la foi des autres. Et je crois que tout théologien est responsable de la foi des autres. Et tous ceux qui enseignent la foi sont responsables de la foi des autres. Donc, dès que vous enseignez à des enfants et que vous essayez de leur montrer toute la richesse de la foi et toute la richesse de la raison, vous êtes engagé dans ce rapport foi-raison. Non pas dialectiquement, mais en coopération. Et là, c'est très net. Dans une pensée dialectique, l'encyclique du pape sera insupportable. Alors, ce serait intéressant, uniquement au point de vue historique, de relever tous ceux qui seront les adversaires et relever au contraire ceux qui essaient de comprendre. Bon. Au point de vue critique, vous pouvez mettre ici évêque. Le Saint-Père le dit ouvertement. Donc ce rapport est aux évêques. Les évêques, c'est ceux qui sont responsables de la foi des autres. Les majores, comme disaient les théologiens du Moyen-Âge. La critique. Critique de l'intelligence. Critique de la connaissance. Quand je connais, je forme au-dedans de moi un concept. Les théologiens diront un verbe mental. Et ce concept sera source de la parole. Toute parole implique un concept. Réfléchissez sur votre parole. Quand vous parlez, non pas passionnément, mais quand vous parlez pour communiquer à votre voisin la dernière intuition que vous avez eue, cherchez. Ça remonte peut-être très longtemps. Le recteur du collège a eu une intuition. C'est un concept. Formez autour de vous un concept. Le verbe intérieur. Bon, alors, le concept, il est lié à l'expérience. La réalité. La réalité n'est pas le concept. Mais le concept, c'est ce qui, dans la réalité, je porte en moi. C'est ce que j'ai assimilé de la réalité. Ce qui est le vécu de ma pensée. Je pense, je médite. Quand vous méditez, vous voyez les liens entre vos divers concepts. Alors, le concept, il est un cours. À la différence de l'idéa, qui est un quad. Vous voyez, le concept est un fruit de ma connaissance pour atteindre la réalité. J'expérimente. le concept. Et du concept, en retour, naît la parole. Et la parole exprime la réalité. Il y a un va-et-vient. L'expérience vous enrichit. La parole vous conduit à la réalité. Ce que vous avez compris, vous dites aux autres. Mais s'il n'y a pas une expérience constante, on vous dira, oh, vous faites un plagiat, vous n'avez rien compris, mais vous dites ce que d'autres ont compris. Est-ce que c'est vous qui l'avez pensé ça? Ou est-ce que vous dites ça sous le mode d'autorité? Aristote a dit ça. Il a bon dos, hein. Il ne peut pas répondre. Quand on voit tout ce qu'on fait dire à quelqu'un, en s'appuyant sur son autorité, alors quand il est encore vivant, il peut dire « Mais non, je n'ai pas dit ça, je dis ça en blaguant, on n'a pas compris. » Regardez le contexte. C'est pas ça. Et quand il est mort, il se tait. Et tout devient sérieux. La mort supprime la blague. Ça, c'est évident. Ça. Tout devient très sérieux. Et tout est unifié comme étant très sérieux. Et c'est l'autorité de celui qui n'est plus là pour dire non, c'est pas ça. Il y a tout l'humour qui est autour de la parole. C'est l'aspect affectif de la parole. C'est la voix. Côté affectif. L'exégèse ne regarde pas la voix. Pour un exégète, Dieu est toujours très sérieux. Peut-être il est un peu mort. Et on ne regarde que la parole écrite. Et on ne regarde plus la parole vivante. Quand il est dit que la parole de Dieu est une parole vivante, ça veut dire que Dieu ne meurt pas. Il est toujours là. À travers et au-delà dans sa parole. Et donc c'est une parole vivante. Et je dois recevoir la parole de Dieu comme une parole vivante. Et non pas comme un texte. C'est la différence avec la loi. La loi, c'est le texte. C'est l'aspect juridique. Celui qui est dans le droit dira, c'est écrit. C'est écrit. Alors, n'est plus qu'une interprétation. Mais vous ne pouvez pas comprendre alors le point de vue de la voix qui est liée à la parole, toute parole, avec le côté affectif, le côté subjectif, le sujet. Le côté subjectif est du côté de la voix, du côté de l'affectivité. Et il est toujours présent dans la parole. Tandis que dans le verbe, dans le concept, c'est le fruit de l'intelligence. Et c'est l'objectivité. Qui est première. Le concept va saisir de la réalité. De la res de la réalité. La réalité existante. Toute son intelligibilité. Le to einai, c'est la réalité. Et le tien, je saisis l'intelligibilité. Et le concept exprime cela. Donc le concept est un cours. Ce par quoi? Le cours, ce par quoi? Ce par quoi je suis uni à l'intelligibilité de la réalité. La réalité, elle est là, présente, en dehors de vous. Mais si je comprends cette réalité, je l'assume, je forme au-dedans de moi-même un concept. Ce par quoi je rejoins la res qui existe et que j'affirme dans le jugement. Je dis ceci est. Et comment je peux dire ceci est ? C'est parce que j'ai saisi ce qu'était cette réalité par le concept, ce par quoi je rejoins l'autre. Le quod, au contraire, c'est cela que je regarde, je m'arrête. La res est un quod. Ceci est. Quand je dis ceci est, je ne m'arrête pas du tout à ce que je pense, mais je m'arrête à la réalité. Ceci existe d'un quad. Alors, voyez, l'idée de l'artiste, c'est une idée que l'artiste s'est formé en lui en tant qu'artiste. Ce n'est pas du tout uniquement un concept. Il y a une certaine intelligibilité dans l'idéa. Mais l'idéa est ce qui va me permettre de construire la réalité, de construire ce que je veux réaliser. Le quad, c'est ce qui mesure mon activité artistique. L'idéa, c'est la loi est une idéa, une mesure. La mesure. Donc, je connais l'idéa, tandis que le quo, c'est ce par quoi j'atteins la réalité. Oui. Ça n'a l'air de rien, mais c'est capital. À partir de Descartes, le concept est devenu une idée. Je pense. Et dans ma pensée, il y a une idée. Je pense à quoi ? À qui ? Je pense à moi. Quand je dis uniquement cogito, je pense à qui ? À moi. Parce que moi est toujours l'objet de mon laboratoire. Il ne me quitte pas. Donc si je ne précise pas, c'est moi. Cogito, ergo sum, ah, j'exprime bien. Dans mon cogito, j'existe. Je suis. Mon cogito me fait exister. Donc mon cogito devient, possède une idée que je considère. Tandis qu'au contraire, quand je suis dans une connaissance qui veut connaître la réalité, mon concept ne m'arrête pas. Je vérifie tout le temps si mon concept est adéquat à la réalité. C'est un coup, ce par quoi je reviens à la réalité. Vous voyez, ça n'a l'air de rien, mais c'est ça qui est capital. Dans une pensée objective, je conçois la réalité et ce que je porte en moi, c'est un concept qui me conduit à cette réalité et qui vient de cette réalité. Dans une pensée objective, la réalité est toujours première et je ne suis vrai que lorsque ce que je dis est conforme à la réalité. Voilà la vérité. Tandis qu'au contraire, dans une pensée artistique où je forme des idées, mon idée devient ce qui dirige mon activité. Et c'est l'idée. Ce n'est plus le concept. Bon, en latin, nettement, il y a le verbum et l'idéa. Saint Jean ne dit pas au commencement, il y a l'idée. Hein? Si Jean était cartésien, pauvre Jean, ça aurait été son purgatoire. si Jean était cartésien, il aurait dit au commencement était l'idée. Oh. Et l'idée, elle est auprès de Dieu. Était le compagnon de Dieu. Et Dieu fit tout comme créateur à partir de son idée. Ça, j'en ai dit, et l'idée est Dieu. L'idée est Dieu. Dieu aussi a des idées. Il y a un article dans Thomas d'Aquin sur Dieu, qui sont les idées de Dieu, comme créateur, pas comme Dieu. On ne peut pas dire que les idées qui sont en Dieu sont Dieu. Elles sont ce que Dieu pense comme artiste, comme créateur, il a ses idées. Je parle du verbe. Bon. Ceci, c'est théologien. Est-ce que, au point de vue philosophique, je peux comprendre cela? Oui. Je vois la pensée d'un Aristote. Il y a en moi ce fruit par lequel je pense, par lequel je rejoins la réalité. Et puis, il y a l'artiste qui a des idées. Je ne cherche pas d'où viennent ces idées. Elles sont toujours liées à l'imagination. Elles sont toujours liées à un état affectif, subjectif. Et c'est la mesure de ce que je vais faire. Et je deviens le maître de ce que je vais faire. Alors que par le verbe, je suis soumis à la réalité. Mais alors, quand ils sont dit, le partage qui se fait entre la pensée relative à l'être et l'être relatif à la pensée, c'est le quod qui a pris possession du coup. C'est la pensée, l'idée qui a pris possession du verbe. C'est capital pour comprendre la phénoménologie. C'est là le point. Dans la phénoménologie, je regarde en premier lieu les idées que je porte en moi. Et ce qui me permettra de dominer le monde. Je ne cherche